RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Antoine Diers, consultant auprès des entreprises, Stéphane Manigold, le restaurateur. Nous sommes avec Elina Dumont, qui est intervenante sociale. Je vois mon écran pour les appels, là, qui est en train de se verdir avec dès qu'on parle saisonnier, dès qu'on parle emploi, dès qu'on parle job, travail. C'est Sonia qui est avec nous. Bonjour Sonia.
Bonjour tout le monde, bonjour les grandes gueules.
Bonjour, bienvenue Sonia. Ma chère Sonia. Alors, il manque des saisonniers, pourquoi? Comment l'expliquer alors, selon vous?
Je ne comprends pas, parce que moi j'ai ma fille, c'est ce que je lui disais, ma fille elle a 17 ans et demi. Elle cherche dans l'hôtellerie, dans la restauration. Ça fait 3 ans bientôt qu'elle va faire le maïs, le castrage de maïs, donc elle en a un peu marre. Avant elle avait 16 ans, maintenant elle a 17 ans et demi. Elle a son permis, elle est véhiculée, elle cherche dans la Sarthe, Maine-et-Loire, 40 dans le 44, et on n'a rien trouvé.
Comment ça se fait?
Je ne sais pas, chaque fois qu'on postule, trop jeune, pourtant elle a 17 ans et demi, donc elle est pas en âge de servir en restauration, de servir de l'alcool, pas rendre la monnaie, je ne sais pas du tout.
Et alors Stéphane?
Sonia, alors déjà moi je suis ravi que votre fille de 17 ans et demi s'intéresse avec passion à notre secteur, donc ça je peux que l'encourager. Néanmoins, effectivement, elle est mineure, si je comprends bien, c'est ça?
Oui, c'est ça, elle a 17 ans et demi, oui.
Et oui, mais la protection des mineurs interdit notamment de tenir une bouteille de vin, de servir un alcool et de travailler après 22 heures.
C'est ça.
Mais pour le coup, dans l'hôtellerie et pour les saisonniers, elle peut très bien faire les arrivées. Enfin, franchement, oui, là, ça. J'ai du mal à comprendre.
Elle peut faire de la mise en place. Je l'ai fait. Donc,
moi, je veux bien récupérer vos coordonnées et diffuser le CV de votre fille, parce que c'est pas normal qu'elle trouve pas du travail.
Ah non, parce que là, je vous dis, ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans qu'elle va faire le castrage de maïs, donc elle est très courageuse. Ça, il y a pas de souci. Ouais. Mais bon, voilà, à un moment donné, si je suis véhiculée, même durant le 44, je dis au bord de mer qu'on est en vacances.
Elle veut bosser dans ce secteur d'activité. Donc elle a l'envie,
Tout à fait, parce qu'elle veut faire un BTS en alternance, c'est pareil, on est en alternance, c'est très 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 compliqué, donc elle risque de le faire en suivi, mais on ne comprend plus. Hein. C'est pour ça que vous marquez 200 000 saisonniers, manque à l'appel, mais j'ai dit, nous, quand on postule, il n'y a rien.
Mais après, ce que dit Sonia, il y a aussi une part de la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a un recul économique assez fort dans le secteur du tourisme, qui est très violent d'ailleurs. Il y a un retournement de marché. Mes amis corses, j'espère qu'ils vont augmenter, par exemple, pour cet été en termes de volume, parce que là, les réservations ne sont pas bonnes. Pareil dans le sud. Donc, on a quand même un ralentissement qui est assez fort dans le secteur. Donc, c'est pour ça que ce chiffre de 200 000 saisonniers qui manque, moi, je ne crois pas qu'ils soient en phase.
Merci Sonia d'avoir été avec nous. On souhaite que votre fille trouve. Si Stéphane peut donner un petit coup de main, Léon, on va prendre vos coordonnées. Merci Sonia, bonne journée du côté de la Sarthe.
Bonne journée aussi. Et j'aime bien Stéphane, c'est France Travail à RMC, les grands gueules. Je trouve ça génial.
Faut utiliser, bien sûr.
Non, mais moi je voulais rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Moi je le crois, ce chiffre. Parce que bon, moi vous le savez, je travaille qu'avec des gens qui sont en très grande précarité au RSA, de chômage ou rien du tout. Et je vais te raconter quelque chose. En fait, l'année 2024 est aussi une année très particulière. C'est pour ça que je pense que les chiffres d'Alain sont vrais. Parce que moi, évidemment, mon but, c'est de leur dire, attendez, il y a des saisons à faire, allez-y. Mais il faut savoir, il y a un gros problème du logement et le fait que les gens... Le Airbnb, faut savoir que dans les Hauts-de-France, tu peux le lire, le Airbnb, il est complet, mais pas par des gens qui veulent travailler, par des gens qui vont être les touristes des JO. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que quand t'es au RSA, tout à l'heure, t'as dit, Stéphane, il y a t'as donné un chiffre, tant de personnes payées par la solidarité. Mais quelqu'un qui est au RSA, il pourra pas se payer un loyer ou un hôtel ou tu vois ce que je veux dire, Stéphane?
Mais je suis d'accord avec toi.
Donc c'est le problème du logement.
Le problème c'est le logement. Il faut repenser totalement. Il y a une pression dans les stations balnéaires et dans les stations de montagne, parce qu'en fait, t'as deux sujets de saisonnier, c'est la montagne ou
la plage.
La plage, mais maintenant se rajoute, et c'est tant mieux, la ruralité. Donc, trois pans de tourisme forts en France. Et dans ces trois pans de tourisme, t'as pas de logement. Alors, j'ai des confrères, notamment dans le Morbihan.
Airbnb, il marche bien, par contre. Hein.
Dans le Morbihan, j'ai des confrères qui mettent en place avec les villes, les régions, le fait qu'ils puissent occuper les internats et loger les salariés. Mais oui, Airbnb a une grosse part de responsabilité sur ce sujet. Hein.
On est, enfin, toutes les
plateformes de réservation. Hein.
Tu voulais dire un mot, Antoine ?
Ouais, un mot. Moi, ce qu'on a entendu juste avant, ça me parle parce que voilà, Sonia, je me souviens à tout juste 18 ans également essayer de bosser, essayer de trouver du boulot pour l'été et on me prenait pas. J'étais majeur, mais ça demandait nécessairement un peu d'expérience, etc. Ça voulait pas former un jeune. Donc, je me remémore moi aussi un voyage, un road trip il y a quelques années dans les pays nordiques où dans tous les restaurants, dans tous les hôtels, on était accueillis par des gamins. Quoi, ils avaient 16, 17, 18 ans, et ils tenaient tout l'été. Donc, je pense qu'une piste. C'est peut-être de parler aux tout jeunes, 18, 20 ans, en leur disant vous allez être bien accueillis, on va vous former, etc. Et je crois que là, on a un vivier de saisonniers qui veulent.
On passe. Hein.
Ouais, Alain, bonjour. Alain.
Ça marche pas, alors.
Bonjour Alain.
Bonjour.
Bienvenue dans les GG. On va retourner bien dans la Sarthe avec vous, mon cher Alain. Alors, c'est quoi le souci puisqu'on ne trouve pas d'intérêt. Enfin, on a du mal à trouver des saisonniers. Alors, quel est le problème?
Je pense qu'il y en a deux. Bon, vous venez parler du logement, c'est certain. Bon, je suis un vieux monsieur, j'ai 76 ans, j'ai été 50 ans cuisinier et j'ai fait de nombreuses saisons. À mon époque, nous étions logés dans ce qu'on appelait l'annexe.
Je vous rappelle.
Alors, généralement, le chef de cuisine ou le directeur de salle avait une chambre pour lui tout seul, mais les aides de cuisine, les plus simples cuisiniers, on était deux ou trois par chambre.
Okay.
Mmh. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est excusez-moi, la carte bleue. De mon époque, les serveurs notamment arrivaient pratiquement à doubler leur salaire.
Avec les pourboires et le liquide.
Avec les pourboires, liquide. Vous aviez des restaurants où le patron rassemblait tous les pourboires de la journée et partageait avec l'ensemble de l'équipe, et vous en aviez d'autres, c'était seulement la salle, mais bon, c'était intéressant pour les serveurs.
Ouais,
okay. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, très peu de gens payant à la carte bleue laissent un pourboire aux employés.
Vous pensez que ça joue, Stéphane, il a raison, Alain.
Ah oui, il a raison. Alors, en plus, on a un sujet à nouveau URSSAF. Enfin, je vais me faire des copains avec l'URSSAF moi aujourd'hui, puisque quand un client laisse ce qu'on appelle le tips, donc le pourboire. En espèce, là, il n'y a pas de contrôle, c'est pas soumis à impôt, et donc, effectivement, c'est distribué, comme le décrit si bien Alain. En revanche, quand le client laisse un pourboire avec sa carte bleue, là, la réglementation dit, ça doit être soumis à cotisation, ça doit être versé sur le salaire, et les charges, et l'impôt, etc. s'applique. D'accord. Je crois qu'il faut qu'on arrive à décadenasser. On avait essayé avec Alain Griset de décadenasser le sujet quand il était ministre à l'époque. On avait essayé de décadenasser le pourboire, parce que, effectivement, c'est, Ça donne de l'attractivité.
Qui laisse des pourboires ici ? Antoine, tu laisses des pourboires ?
Exceptionnellement. Si vraiment j'ai eu un service hyper cool, là je laisse un pourboire. Mais sinon, non.
Et moi, si les gens ils sont gentils, toujours. C'est vrai, il y a des serveurs, ils sont avenants et tout. Mais il y en a, attends, ils te servent comme si t'étais. T'es à peine assis. Vous voulez quoi ? Paf, paf. Non, cela.
Il n'y a pas de jugement à voir. Moi, je me souviens, on avait pris un verre ensemble et je confirme.
Je me souviens.
Elina dit, on avait pris un verre ensemble. Elle a laissé quelques petites pièces, mais des centimes.
Oui.
Mais elle a laissé. Tu as laissé effectivement quelque chose. Donc, il ne faut pas avoir peur de. Mais si on peut, il n'y a pas de jugement à voir. Vous laissez 20 centimes, laissez 20 centimes.
Mais Alain a raison. Il y a aussi, c'était l'attractivité parce que moi, je me souviens d'un copain qui avait fait barman. Il avait 18 ans. À Nice dans la saison et on lui avait dit justement on dit écoute ton salaire c'est ça mais derrière tu pouvais doubler avec le pourboire et ça quand t'es là tu dis ah, putain mais ça c'est dans ma poche c'est bien le soir je peux aller je peux aller m'amuser tous les soirs tu repartais avec du liquide quoi c'est ça qui est bien quoi alors peut-être que ça joue effectivement aujourd'hui
ça joue
comme tu disais aujourd'hui il y a un problème effectivement de rémunération il y a le problème de logement. Et derrière, ce qui était intéressant, c'est que tu repartais, t'en avais un peu dans la poche, quoi.
Tu sais que dans des grandes brasseries françaises, où t'avais ce qu'on appelle les garçons de café, qui est habillé avec une belle chemise, le nœud papillon, qui incarne en fait les belles brasseries ou les beaux bistrots parisiens. Tu avais des CV, des piles de CV des gens qui postulaient, et ceux qui partaient à la retraite, ils revendaient leur place. au suivant. Ils cooptaient et ils revendaient parce que tellement le pourboire était...
Ouais.
Mais la place était bonne parce que le pourboire était conséquent. Donc les mecs, ils revendaient. Et aujourd'hui, tu discutes avec des grandes brasseries parisiennes qu'on connaît ou en France. En fait, ils n'arrivent même plus, eux, alors que... Il y a quand même un peu de pourboire. Eux-mêmes n'arrivent plus à recruter. Ils n'ont plus de pile de CV comme avant.
On va aller en Charente retrouver Pierre, tiens, qui est un collègue à toi. Baissez le son, Pierre. Voilà, Pierre qui est restaurateur. Bonjour.
Oui, bonjour.
Salut, bonjour, Pierre. Bienvenue, Pierre. Alors, est-ce qu'il vous manque des saisonniers, vous, ou pas?
Ah, il m'en manque quelques-uns, oui.
C'est-à-dire en fait, quelques-uns?
J'ai trois affaires. Il m'en manque 7, exactement. Et il ne me manque pas que des saisonniers. Il me manque également des CDI, surtout. Donc, le problème, en fait, je vous entendais parler de salaire, etc. et tout. Le problème, c'est que la nouvelle génération ne veut plus s'engager. Moi, j'ai connu l'époque, parce que j'ai 57 ans, et ça fait 30 ans que j'ai des affaires dans la restauration. C'était le Graal d'avoir un CDI. Maintenant, les jeunes, ils veulent tous un CDD. Mais 90% des entretiens que je fais, ils veulent tous des CDD.
Ah bon?
Ouais. Donc, parce qu'ils sont au chômage, donc ils vont faire un CDD pour 3-4 mois. Et donc, on ne peut pas faire de CDD. Donc, à part des emplois saisonniers, on ne peut pas faire de CDD. Et de toute façon, moi, je veux des gens qui s'engagent. Et donc, le CDI, c'est plus le Graal, en fait. Parce qu'au bout du CDD, ben, on touche la prime de précarité, les congés payés, on se remet au chômage et on recommence.
Au-delà des histoires de primes, Pierre, moi j'ai 35 ans et je vois assez bien dans ma génération l'idée qu'on a du mal à signer un CDI, je vous l'accorde, mais pour autant, c'est à l'employeur de nous faire rester. Donc donner des CDD, faites apprécier le job, et si c'est correctement payé, que c'est sympa, etc., le jeune restera.
Et donc quel monte toi pour les salariés.
Attendez, laissez-moi plaisir.
Le CDD, il faut qu'il se justifie. Moi, quand un CDI démissionne, je ne peux pas, c'est interdit de le remplacer par un CDD, à moins que ce soit un emploi saisonnier.
Ah bah oui, tu peux pas.
Et voilà, c'est ça.
Dans quel monde tu utilises un CDD comme ça, toi?
Bah, moi, je signe des CDD.
Bien sûr.
Attendez, laissez finir.
Tu peux renouveler le CDD plusieurs fois.
Allez-y.
Il y a un autre phénomène qui existe, et ça, c'est tout nouveau. Et ça, c'est depuis la fin du Covid. Maintenant, moi, par exemple, j'ai fait des ruptures conventionnelles à des gens qui sont dans la restauration. Je regarde un petit peu leur parcours après leur rupture conventionnelle. Et j'en connais pas beaucoup qui retravaillent dans la profession. Et par contre, ils recandidatent, mais pour être extra. Et le pire, c'est qu'ils veulent des extras, mais payés au black.
Bah exactement, Pierre, c'est bien de le dire.
Après, l'employeur n'est pas obligé de le faire non plus. Hein.
Pierre, il a résumé là. Il a résumé. Les salariés aujourd'hui dans le secteur où ne démissionnent plus, ils veulent des ruptures conventionnelles. Ils touchent tranquillou le chômage maintenant pendant 18 mois. Ça a été rabaissé de 24 à 18. Et que derrière, ils viennent te voir et disent « Moi, je veux bien travailler. Et je vais te payer au black. »
Non, mais t'es d'accord avec moi que la rupture conventionnelle, ça se fait entre un salarié et un employeur.
Non, mais le
salarié... vous n'avez pas le couteau sous la gorge,
si,
quand même.
Si, si, crois-moi.
Oh.
Aujourd'hui, non, mais vraiment, Elina, je t'assure que les salariés, de façon assez générale, pas que dans notre secteur, ne démissionnent plus. C'est une rupture conventionnelle, c'est un droit au chômage. Alors, je rappelle juste quand même, c'est une information qui est pas assez dite, mais seul l'employeur cotise pour le chômage, pour cette assurance. Le salarié ne cotise plus depuis 2019. C'est que l'employeur. Et donc, le principe d'une assurance, c'est quoi? C'est un aléa. Il n'y a plus d'aléa quand tu décides de rester au chômage pendant 18 mois. Donc, pourquoi l'assurance fonctionne? Moi, je serais même favorable, et je vais être assez destructif sur le sujet, je serais favorable à donner dans le privé l'assurance chômage et que le privé se démerde puisque c'est une assurance.
De toute façon, je vais faire une petite blague, mais la nouvelle démission, maintenant, c'est la rupture conventionnelle.
Ouais. Et oui, mais l'employeur, il n'est pas obligé d'accepter.
Et bien, s'il n'accepte pas, c'est ce qu'il fait le salarié. Il va voir le médecin du travail, il dit « je suis inapte ».
Et ben voilà.
Et
ben voilà.
C'est ça, la vraie vie.
Voilà. Bah, écoutez-moi.
C'est la réalité.
Ou alors, allez-y, voilà. Antoine.
Que tout ça soit pas légitime, je vous l'accorde. Mais en revanche, je reviens sur le fait que l'employeur doit pouvoir comprendre que les gens veulent de la flexibilité. Ils veulent plus se marier à vie.
Ah,
et donc tu me dis,
ça me
battrait peut-être
bien.
Que tu peux pas faire tes CDD, etc. J'en sais rien, j'emploie pas. Mais en revanche, battez-vous pour proposer
Pierre,
de la souplesse aux gens.
On parle de la semaine des 4 jours. C'est Gabriel Attal qui met le sujet sur la table. La vérité, c'est pas la semaine des 4 jours, hein, c'est le week-end des 3 jours. Hein.
Ouais.
C'est ça le vrai sujet. Mais discute un peu avec les artisans. Moi, j'ai discuté avec un chef d'entreprise, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, fleuriste, à Paris, il me dit « Stéphane, on est devenus les esclaves de nos salariés.
ils ont 3 jours. Non mais c'est vrai, on est devenus les esclaves. Et dis-moi, je bosse 7 jours sur 7, le salarié.
Moi je connais beaucoup de salariés qui sont esclaves de leur employeur.
Mais tu vas voir quand il y aura le blues. Pourquoi dans Paris, comme dans plein de villes en France, y compris à Dunkerque, pourquoi t'as autant de commerces disponibles? Mais parce que t'as plus envie d'entreprendre. Alors, mais si demain tu dégoûtes l'entrepreneuriat dans ce pays, t'as plus d'entrepreneurs, donc t'as plus de salariés. Mais allons jusqu'au bout dans ce cas-là. Si les salariés veulent une liberté absolue, aussi. Tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle être en libéral.
Exactement.
Tu casses le code du travail, tu dis chacun travaille comme il veut.
Tu veux payer à la semaine, à la quinzaine.
Tu es payé à la journée, tu travailles une journée, t'es payé une journée, tu veux travailler une semaine,
Exactement,
mais arrêtons.
Toi, t'es pour ça.
Mais moi, vas-y, plein de balles.
On avait un auditeur qui nous parlait de ces gens qui se mettent en auto-entrepreneur pour prendre des missions, etc. Moi, je pense que oui, il faut casser les carcans du code du travail. Et aujourd'hui, tu cherches quelqu'un pour bosser le week-end, eh ben, tu prends quelqu'un avec qui tu contractualises, tu contractualises le fait qu'il bosse le week-end et tu le payes plus cher.
C'est donc, Julien Fleuris qui m'a dit que j'en ai marre d'être l'esclave de mes salariés nous écoute.
En fait, c'est pas normal qu'il soit l'esclave de ses salariés. En revanche, le salarié n'est pas l'esclave du patron non plus. Voilà. Et donc, trouvons un juste terrain d'entente.
Merci à Pierre d'avoir été avec nous.
Ça marche.
Pierre, donnez le nom de votre restaurant Angoulême.
Alors, j'ai le River 102 et le Blues Rock Café.
Voilà, bah vous passez voir.
Angoulême.
Vous passez voir.
Et je cherche des salariés, mais qui veulent être déclarés, par contre.
Vous passez voir Pierre à Angoulême si vous cherchez du boulot du côté de la Charente. Les saisonniers qui manquent à l'appel, est-ce que c'est inquiétant? On va regarder ça. On a posé la question sur les réseaux sociaux. Voyons ce que vous en pensez. Oui, 77%. Est-ce que c'est la faute la faute des salaires?
Des salaires.
La faute des salaires. Oui, c'est la faute des salaires à 77%. Oui,
évidemment.
Pas assez payé.
Et les salaires, ils sont conditionnés comment? Tu sais, t'as une base de chiffre d'affaires qui est de 100. Le salaire, il peut pas aller empêcher qu'au ciel.
Attention, on va avoir un gagnant des places des Jeux Olympiques. C'est Diallo qui est avec nous. Bonjour Diallo.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes contrôleur chez Enedis, c'est ça?
Oui. Oui.
Vous avez envoyé Paris 2024 par SMS 732-16, c'est ça?
Oui. Oui.
Et vous êtes tiré au sort et vous êtes en direct dans les grandes gueules. Vous avez gagné les places pour les JO.
Yes! Merci beaucoup.
Vous avez gagné. Alors, écoutez-moi bien, parce que maintenant, vous allez choisir. Okay. Deux places pour les épreuves de natation, finale du 100 mètres homme-brasse, finale du 100 mètres papillon, femme. Ou deux places pour la finale de football féminin, le 10 août à Paris aussi. On espère que ce sera l'équipe de France. Qu'est-ce que vous prenez?
Je prends l'ouverture.
C'est deux places pour les épreuves de natation ou deux places pour la finale de foot. Qu'est-ce que vous prenez?
Je pourrais venir avec mon épouse alors.
Oui, c'est deux places. Alors, vous prenez la finale de foot ou les épreuves de natation?
Je prends les épreuves de natation.
Allez, c'est pour vous, mon cher Diallo. Bravo, bien joué. Bien joué.
Merci beaucoup. Je fais un gros dédicace à mon épouse, ma femme que j'aime beaucoup.
Comment s'appelle-t-elle? C'est quoi son prénom?
Elle s'appelle Liabi.
Eh bien, vous permettez qu'on la salue aussi?
Oui, bien sûr.
Eh bien, nous saluons Liabi aussi. Et Diallo, bravo, vous allez partir aussi. Et alors, on a ces 100 places. Et c'est jusqu'à mercredi prochain que vous pouvez gagner les 100 places. Donc, dépêchez-vous, vous envoyez Paris 2024 par SMS au 732-16. Allez, dans un instant, avec Antoine, avec Stéphane, avec Elina, je vous propose de venir discuter des HLM. Est-ce qu'il y a des gens, effectivement, qui ont des revenus supérieurs et qui devraient sortir des HLM? Vous en connaissez peut-être autour de vous. Je ne vous demande pas de faire de la délation, bien sûr. Vous êtes peut-être concernés. C'est le moment d'en discuter en toute franchise avec les GG, parce qu'on a un gouvernement qui veut mettre fin au logement social à vie et sortir les familles qui dépassent le seuil de revenus. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'il faut le faire, effectivement? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
GG les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, on discute, on débat, ça c'est ce qu'on fait tous les jours entre 9h et midi sur RMC, tout au long de la journée d'ailleurs, le 32-16 il est pour vous, dès Charles Matin, ensuite Apolline de Malherbe, les grandes gueules, Estelle Midi, et puis vous enchaînez avec le Super Moscato Show, Rotten, et puis tous les camarades de l'after, le foot, donc sur l'actualité, la société et sur le sport, nous sommes à votre disposition bien sûr au 32-16, et là pour parler logements sociaux HLM, et ceux qui y restent alors qu'ils ne devraient plus y être.
RMC, les grandes gueules.
Alors c'est Guillaume Kasbarian qui est le nouveau ministre du logement qui veut en terminer en fait avec ce qu'on appelle comme ça de manière commune, un peu familière, le logement social à vie. En fait, il faudrait faire de la mobilité. Mobilité dans le parc des locataires HLM. C'est-à-dire regarder précisément ceux qui, à un moment, gagnent un peu trop pour rester au sein du parc HLM. D'autant qu'il y a... Alors, ce serait 8% des logements qui bénéficient de loyers modérés qui seraient occupés par des ménages qui dépassent le plafond des revenus. Il y a 2,5 millions de ménages qui sont en attente de logement social. Alors, est-ce qu'il y a des abus? Est-ce que vous en connaissez? Est-ce qu'il faut effectivement sortir des HLM ces gens-là? 32-16 pour en parler avec les GG. Monsieur Antoine Diers.
Alors moi, je vais faire une pointe d'humour. Je pense tout de suite à tous ces députés LFI qui vont devoir quitter leur logement social. blague à part. Je pense qu'on a un vrai sujet là-dessus sur le niveau de revenu et la composition familiale, parce que j'ai été directeur de cabinet dans des municipalités. On m'expliquait aussi que on avait donné des T3, T4, T5 à des familles et que les enfants étaient partis et que les parents devenus grands-parents, etc., conservaient des T4, T5 et qu'il n'y avait pas de mobilité pour passer ce grand appartement à une famille qui aurait des enfants, etc. Donc oui, on doit absolument remettre à plat chaque année, à mon avis, les conditions d'occupation d'un logement. Mais une fois qu'on a dit ça, aller dire à une famille qui occupe le même appartement depuis 20 ans, où ils ont l'impression que c'est quasiment chez eux, aller dire de bouger, c'est très compliqué. Et donc, moi, je pense qu'on doit surtout repenser le concept même de logement social. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas qu'on doit demeurer locataire d'un logement social toute sa vie. Je pense qu'on devrait bien plutôt utiliser l'argent qu'on met sur le logement social pour permettre aux gens de devenir propriétaires. Quand on a payé un loyer pendant 20 ans ou 30 ans, eh ben on aurait aussi bien pu être propriétaire. Et donc, mettons aussi le paquet sur l'accession sociale à la propriété, qui pour moi est la meilleure réponse.
Alors,
à tout ça.
L'idée du gouvernement, l'idée c'est que le bailleur social, au moment où tu prends ton logement ou où tu réactualises, c'est d'avoir accès, si tu veux, à ton patrimoine. Mmh. C'est ça. Mmh. Parce que peut-être que tu as hérité, ta situation, bien sûr, a évolué, mais si tu as hérité ou si tu as fini de payer un petit studio ou quoi que ce soit, tu changes inévitablement de revenu. Et dans ces cas-là, c'est de te dire, monsieur, écoutez, voilà, on va se donner un peu de temps, un an, et puis vous sortez du parc HLM de façon à le libérer pour qu'il y ait des gens aux revenus plus modestes qui puissent y accéder.
La loi le permet déjà aujourd'hui. Je vois pas ce qui nous manque comme outil juridique.
Bah, si, ça manque. Sinon, ministre Casbarian, on n'en parlerait pas.
Mais dis-moi ce qui manque. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a déjà des seuils. On dit déjà
qu'il y a des... Je vais te dire ce qui manque. En fait, tu as un seuil à l'entrée, mais tu n'as pas de contrôle pendant la durée de vie d'occupation du HLM.
Il y a des
seuils d'entrée, de conditions qui sont des plafonds de ressources, situation de logement actuel, les demandeurs qui sont sans abri. Donc, tu as tout un certain nombre de critères qui te permettent d'accéder à un logement social. Et il est vrai que c'est très long d'accéder à un logement social, y compris lorsque tu es dans une grande précarité. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un engorgement, il le dit, hein, c'est 1,8 million de ménages qui candidatent légitimement pour y rentrer. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont droit d'y aller, mais ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que t'as sur les 5,2 millions de logements sociaux en France, tu as 8% de blocage. 8% de blocage, ça répond quasiment à la demande qui est faite là.
Ouais, donc, t'as pas répondu. Mais aujourd'hui, tu me dis qu'il y a pas
Paris,
les textes pour faire
Paris,
sortir les gens.
Dans Paris, tu as des quantités, mais comme dans toutes les villes, tu as des quantités de rues où au fond c'est un casting. C'est pas des gens qui sont demandeurs. Tu as même des chefs d'entreprise qui vivent dans ces logements, qui sont devenus chefs d'entreprise par la suite, et leur situation a fortement changé. Donc on leur augmente un peu le loyer.
Après,
jamais
c'est peut-être
le loyer.
Un manque de volonté qui manque. C'est peut-être un manque de volonté
on s'arrange.
Il y a une espèce de pas de vague aujourd'hui peut-être.
Mais parce que c'est un électeur. Eh ben, faut pas l'oublier. Au bout du bout, c'est un électeur. Les 5,8 millions de personnes qui sont dans des logements sociaux,
ce sont des électeurs. D'avoir donné le logement.
Et d'ailleurs, Monsieur Balkany ou les Balkany, on ont usé la corde.
Je suis pas sûr que ce soit le plus grand exemple. Il y a beaucoup de logements sociaux à Levallois.
Ah oui.
Moi, je pense plutôt à tout le 9-3 rempli d'étrangers dans des tours complètes.
Oui,
je t'en prie, je vais te donner la parole. Mais il y a effectivement un sujet clientélisme. Elina,
toi qui...
Alors voilà, moi, c'est trop tard. Sa proposition est trop tard. Je suis aux grandes gueules depuis 2013. N'importe qui peut retrouver combien de fois j'ai dit il faut faire le ménage dans les HLM. Ouais. Mais maintenant, c'est trop tard. Même les classes moyennes, voire sup, n'ont même plus la possibilité d'aller en HLM. Parce que là, il faut préciser pour nos auditeurs et spectateurs, il y a trois types d'HLM. Moi, je suis dans un HLM, pour, on va dire, excusez-moi, pour les pauvres. Après, il y a ça s'appelle PLUS, enfin bon. Mmh, après, oui, il y a les HLM pour, on va dire, la classe moyenne. Et après, il y a les HLM loyers libres. Alors là, ça peut aller très loin. D'ailleurs, la France Insoumise, eux, ils étaient, Antoine, dans des HLM loyers libres. Mmh. Chaque année, ils font une enquête. Même moi, ils enquêtent. Bon, moi, je suis désolé. Moi, je suis dans un 19 mètres carrés. Bon, c'est vrai que je gagne de mieux en mieux ma vie. Mais il n'est pas question que l'année prochaine... Je paye un 19 mètres carrés non plus à 900 euros, quoi. À un moment donné, soit il me change de logement. Tu vois ce que je veux dire?
Tu as le plafonnement du
loyer. Ben là, déjà, je suis à 672.
Mais dans le privé, tu paierais la même chose.
Eh ben oui, mais.
Avec le plafonnement, oui, mais... 19 mètres carrés fois 30 euros maximum, oui, à Paris, tu serais à moins de 600 euros.
Non, mais écoute, dans le parc privé. Mon logement, c'est toute ma vie. Alors, me dis pas.
Mais ça, c'est ce que tout le monde dit.
Non, mais attends, à 44 ans, j'ai eu enfin mon logement. Dans le privé, on disait, t'as pas de famille, tatata. Enfin, bref, je passe les détails. Excusez-moi. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est trop tard. La proposition, elle est trop tard maintenant.
Pourquoi est-ce qu'on ne le sort pas, comme le dit Antoine? Pourquoi est-ce qu'on ne les sort pas, ces gens des HLM?
Parce que
on sait justement qu'ils dépassent le seuil et qu'ils gagnent plus que ce qu'ils devraient pour rester en HLM. Quoi.
Alors, en fait, la problématique...
C'est un manque de volonté politique, c'est ça? On ne veut pas faire de scandale,
c'est pas une histoire de scandale. C'est que, bon, pendant de nombreuses années...
c'est compliqué. Les logements sont devenus de plus en plus chers aussi dans les grandes villes. C'est une réalité. Parce que c'est le problème de l'effet de seuil. Ouais. C'est-à-dire que tu peux très bien dépasser et tu n'es plus, à ce moment-là, autorisé à aller dans les HLM et te loger... ça sera beaucoup plus cher dans le parc privé et peut-être que tu ne gagnes pas suffisamment pour aller dans le privé à ce moment-là.
Quand même, tu as un surloyer quand tu.
Oui.
Mais en fait,
ça,
la problématique pendant des années. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, les garçons, mais pendant des années, dans les HLM, on pouvait rester sans payer pendant 10 ans. Maintenant, tout ça, c'est terminé. Hein. Même en HLM, attends, je connais bien le monde des HLM.
On s'est fait expulser pour un pays.
Bref, je ne vais pas raconter ma live.
Les années 90.
Et pour vous dire, même Yann Brossat. Pas plus tard que la semaine dernière, il ouvrait des HLM.
Il était adjoint au logement, il est sénateur.
Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Ouais. Il a montré. Ouais, il a montré des HLM pour la classe moyenne. Pour vous dire, parce que la classe moyenne, elle en a marre aussi de galérer,
de pas pouvoir se lever.
Attends, écoute, et les bailleurs sociaux. Eux, ils ont envie qu'on les paye. Parce que, tu sais, les gens derrière, là, qu'attendent, ben, ça fera la même chose, à un moment donné, une fois qu'ils seront dans
le sujet du HLM.
Alors, attends, je voudrais qu'on aille hop dans le Var, pardon, c'est Mehdi qui est avec nous. Bonjour, Mehdi. Bonjour, Mehdi.
Allô, Mehdi. Oui, bonjour, les GG. Comment ça va?
Ben, ça va, Mehdi. Vous étiez loin du téléphone, vous l'avez récupéré à temps. Alors, Mehdi, qu'est-ce que vous en dites de cette proposition? Sortir ceux qui sont dans l'HLM, qui gagnent plus qu'il n'en faut. Dites-moi tout.
Alors, je vous explique. Moi, depuis 2016, je suis en HLM.
Ouais.
D'accord. Et je travaille pour le département. Donc, c'est des appartements du département qui nous mettent à disposition pour les titulaires. Voilà. Et on a une augmentation qui est toutes les années. Et voilà. toutes les années, il y a une révision. Savoir combien on gagne, savoir combien on est. Il y a toutes les années, on est obligé de...
Ils demandent même la fiche d'imposition.
Mais bien sûr, voilà. Et il y a une année, en 2017, j'ai complètement oublié, oh, ben, je le ferai après, et tout ça, j'ai reçu le loyer, 1000 euros. Ah oui, quand même. J'ai dit, bon, bah, alors j'ai pu un peu négocier et tout ça, que voilà, que j'avais oublié et tout ça. Mais avec ma femme, on a regardé un petit peu dans le privé. Non, mais c'est des fous. Qu'on ait regardé du côté d'Oulioul, de Sifour, de Sanary. Mais c'est 900 000 euros. Mais c'est un T3, hein. Et j'ai dit, mais on s'en sortira jamais. Et comme avec ma femme, on en discutait, c'est pour ça que je me permettais de vous appeler, c'est que c'est les salaires qui vont pas. Mais on n'y arrivera jamais. 1000 euros, c'est le salaire de ma femme. Elle est auxiliaire de vie. Comment on fait? Ça veut dire qu'elle va travailler pour payer le loyer. Terminé. On fait plus rien.
Mais l'augmentation des salaires, c'est, si c'était.
Et là, on est augmenté toutes les années dans les HLM. Donc c'est là où moi je suis. Et c'est vrai que moi, autour de moi, effectivement, moi j'ai remarqué que oui, il y a des familles qui ont des T4, T5, et que bah, les enfants sont tous partis. Et c'est là où je suis pas d'accord, oui. C'est là où je suis d'accord, pardon, que et bah, justement, ils ont rien à, ils ont rien à faire avec un T5. D'accord, je suis d'accord. Non,
mais... Je suis d'accord avec vous, Mehdi. Il faut intégrer deux choses. Premièrement, HLM, c'est-à-dire habitation à loyer modéré.
Modéré.
Et que votre situation à un instant T, elle peut évoluer et positivement, vous pouvez mieux gagner votre vie, vos enfants peuvent s'émanciper et quitter le domicile familial et vous vous retrouvez dans un 5 pièces où vous avez des personnes qui disent bah non, mais moi j'ai toujours vécu ici, je veux pas bouger parce que j'ai mes meubles, j'ai mes machins, j'ai mes... Et il y a trois chambres de vide qui pourraient effectivement participer à ce que de nouvelles familles puissent s'installer et en fait, ça ferait un peu l'escalier social. Celui qui est dans un studio, il passe dans un 2 pièces. Celui qui est dans un 2 pièces, il passe dans 3 pièces, etc., etc. Sauf que là, en fait, il y a la machine, elle est grippée, puisque les gens, une fois qu'ils sont intégrés dans leur logement, ils ne veulent plus bouger. Moi, j'ai un salarié, par exemple, dans mon groupe. On veut lui proposer un logement parce qu'il habite dans le 93. Il habite assez loin du travail. Il s'occupe des chantiers chez nous. C'est un type formidable. Et je lui ai proposé. Je lui ai dit, je vais te loger. Du coup, on va te prendre un logement de fonction. Ah mais non, parce que c'est tellement compliqué d'avoir un logement social que il faut que je le garde, sinon je perds le droit, parce que sinon je pourrais plus jamais revenir dessus.
Mais
s'élever dans la société, c'est aussi se sortir de cette condition sociale.
Non,
bien évidemment,
ça,
s'élever dans la société.
Sauf qu'aujourd'hui, on le voit, donc on va être mangé, en fait. En fait, c'est ça, c'est à quel soupe on va être mangé.
C'est ça.
C'est parce qu'il y a des gens qui méritent d'avoir ce logement parce que
vu leur
revenu, et il y en a d'autres qui abusent. Mais il faut pas mettre tout le monde dans le même sac.
Voilà. Et en fait, c'est ce que vous dites, Mehdi, c'est que au fond, ceux qui sont dans un logement social, même si leur situation change à un instant T, ils ont peur de le quitter parce qu'ils savent à quel point pour revenir c'est compliqué. Une fois qu'ils l'ont quitté, si leur situation se réinverse et se redégrade.
Ouais, mais ça, c'est la vie, hein.
Non, mais,
c'est la vie. On est tous susceptibles à un moment d'avoir un accident de la vie, se retrouver dans la merde,
Alors, il y a un truc que je comprends pas. À mon avis, il y a un caillou dans la chaussure, là. Parce que toutes les années, on reçoit un papier comme quoi, voilà, il y a combien de personnes, combien vous payez, quels sont vos revenus. Alors, donc, c'est soit.
Mais c'est du déclaratif.
Alors, voilà, soit il y a une erreur où ils mentent, ils racontent des bêtises, ils disent voilà, on a encore 4 enfants, ils ont un T5, ils sont tous partis. Est-ce qu'ils vont vérifier ou est-ce qu'ils font confiance aux bailleurs, enfin aux locataires?
Est-ce que vous avez déjà été contrôlé, vous?
Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Alors attendez, vous savez quoi? On a la réponse. C'est pour ça que le ministre veut faire une espèce de croisement aussi, de croisement de fichiers pour bien vérifier que les situations aient évolué. Ensuite,
pour
se donner le temps de la procédure. Mais dans un instant, Mehdi, vous allez écouter Dominique. On va aller dans les Pyrénées-Atlantiques et il est gestionnaire copro HLM.
Intéressant.
Donc lui, il a une visibilité sur les excès qu'il peut y avoir. Et ben on continue d'en parler avec les grandes gueules et avec Dominique. Et ensuite Nadine, qui a des gens qui font des voyages à 10 000 balles et qui vivent dans HLM. C'est dans son entourage. Bravo, belle famille.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Avant de continuer notre discussion sur les HLM avec Dominique, gestionnaire en copro, Nadine qui a 2-3 petits exemples comme ça à nous donner, je vous rappelle l'événement exceptionnel lundi sur RMC. Le président de la République sera l'invité d'Apolline de Malherbe sur RMC et BFM TV de 8h20 à 9h. Nous sommes à 100 jours des Jeux Olympiques. Le président de la République répondra aux questions d'Apolline, des auditeurs d'RMC, de nos consultants aux Jeux Olympiques, David Douillet, Marion Bartoli et Rémi Boulet. Si vous voulez interroger le président de la République, vous le pouvez. Si vous êtes devant RMC Story, vous voyez que vous avez un QR code, donc vous le scannez et ça vous renvoie directement à la petite plateforme pour poser vos questions. Sinon, vous passez par le 32-16, il y a la marche à suivre pour poser vos questions à Emmanuel Macron. Ou alors, c'est l'adresse mail vosquestions@rmc.fr. Le chef de l'État, invité d'Apolline de Malherbe, de Marion Bartoli, de David Douillet et Rémi Boulet, lundi de 8h20 à 9h. Et ensuite, des briefs extraits, bien sûr, avec les GG, avec les grandes gueules. On revient à notre discussion sur les HLM, on en parle avec Dominique, je remercie d'avoir patienté. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce qu'effectivement il y a des abus et il y a 8% qui ne devraient plus être en HLM, 8% de la population ou pas?
Alors, les chiffres sont peut-être vrais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne date pas d'hier. C'est-à-dire que moi, j'ai passé une première partie de carrière de 90 à 2000 en HLM. Et le problème existait déjà, c'est là où ils ont mis en place les surloyers. Donc effectivement, les HLM, ben, ça fait 25 ans qu'ils vérifient chaque année. Mmh. Donc avec les avis d'impôt, ils savent parfaitement qui c'est qu'il y a dans le logement, voilà, etc. Mmh. Mais et déjà dans les années 95, on avait des logements T5 habités par des gens âgés et dont les enfants étaient partis. La seule chose que n'ont pas les HLM, c'est la volonté politique. Si on leur dit demain qu'il y a une loi et qu'il faut qu'ils obligent les locataires à intégrer des logements plus petits ou à partir du parc social parce qu'ils ont les moyens de se loger ailleurs, ils le feront.
Donc pour c'est quoi,
ils n'ont pas les outils, tout simplement.
C'est un manque de... si vous dépassez le plafond de revenus.
Mais
alors les enfants sont... En fait, les enfants sont partis, il y a eu le surloyer, et vous êtes toujours dans les clous, quoi, en fait, c'est ça?
Mais oui, mais ils n'ont aucun outil, rien, aucune loi pour pouvoir les sortir des logements où ils sont. Et ça fait 25 ans que ça dure.
Oui, parce que, en effet, vous avez raison, parce que ça, la loi, c'est tant que vous payez votre loyer, ben, il n'y a aucune raison qu'on vous expulse. Ça paraît logique. Et humainement, on part du principe qu'une femme, à partir de, on va dire qu'elle a la retraite, eh ben, elle a vécu toute sa vie ici avec ses enfants, et humainement, les bailleurs disent...
Elle reste plus dans un de trois pièces.
Oui,
elle descend dans une surface.
Enfin, j'entends, moi, le côté humain, mais je suis désolé, moi, j'ai pas à payer parce que, le côté humain, c'est sympa.
Non, mais c'est pas mais surtout que t'as des gens qui attendent.
Non, mais t'as des gens qui attendent.
Là, c'est de l'égoïsme, pardon.
Oui.
C'est de l'égoïsme.
T'as 2,5 millions de ménages qui sont en attente de logements sociaux.
T'as eu la chance de bénéficier de la solidarité à un moment. Mmh. Bah, laisse la place aux autres. C'est quoi cet égoïsme qui consiste à dire, bah non, mais je suis là, je suis ancré, je reste.
Antoine,
tu as entendu, hein, Dominique, elle le fait, le constat en tant que gérant de compagnie.
Les baux dans les HLM sont à reconduction tacite.
Tout à fait.
C'est-à-dire que si on ne dénonce pas le bail, effectivement, les gens restent à vie. En revanche, je maintiens que les offices HLM ont les moyens juridiques aujourd'hui de dénoncer un bail et de mettre quelqu'un dehors. C'est une question politique. Ensuite, sur l'échange de logements d'un grand vers un plus petit quand la famille est partie, je l'ai essayé en étant directeur de cabinet dans des communes. La difficulté, c'est qu'il faut re-signer un nouveau bail pour le nouveau logement plus petit. Sauf que les gens qui étaient dans le T4 depuis les années 70 ou 80 ont eu un niveau de loyer qui a progressé de manière très encadrée et donc ont aujourd'hui un niveau de loyer très peu revalorisé sur un T4, ce qui fait que quand on leur dit de passer dans un T2, le niveau de loyer du T2
est plus important,
est supérieur à celui du T4. Et donc, évidemment que les braves grands-parents qui sont dans leur T4,
ils sont pas forcément éligibles financièrement.
Je suis prêt à laisser mon T4, mais faites-le moi au même prix de loyer dans le nouveau T2. Et ben en fait, ça ne marche pas.
Et d'ailleurs,
il y a peut-être quelque chose à régler.
C'est ça le nœud du problème aussi, Dominique ?
Oui, parce qu'effectivement, souvent, les grands logements qu'ils ont dans des T5 sont des logements plus anciens.
Voilà.
Et que, effectivement.
Les loyers sont très bas.
Après, non, bon, il y a.
Mais, très bas, bon,
il y a moyen de trouver. Mais, de toute façon, moi, je persiste à dire que ça fait 25 ou 30 ans que ça dure. Donc, il y a aussi un manque de volonté politique.
Alors, Dominique, on va écouter Nadine qui avait les exemples à nous donner autour d'elle. Bonjour, Nadine.
Bonjour.
Parce que, voilà, il y a deux, trois choses qui vous ont fait tomber à la renverse.
Pas tomber à la renverse, mais disons que moi, j'ai plusieurs exemples autour de moi où ce n'est pas des connaissances directes, on va dire que c'est des gens que je connais et enfin ils ont un style de vie qui ne correspond pas au fait d'avoir un HLM. Voilà. Quand vous pouvez partir, vous pouvez avoir que le couple ne travaille pas les deux personnes et que vous pouvez partir et faire de beaux voyages et tout ça, tant mieux pour eux. Mais en fait, vous correspondez pas à ce qu'on attend de personnes qui ont droit à un HLM. Moi personnellement, j'étais à 20 ans, j'étais seule, personne m'a aidée, j'ai jamais eu d'HLM, j'ai fait des demandes, j'en ai jamais eu.
Ouais.
Je me suis débrouillée toute seule, j'ai payé mes loyers toute seule, j'ai jamais eu droit, j'avais pas les, ou alors les critères étaient trop, mais de quelques dizaines d'euros peut-être tout ça, je me suis débrouillée toute seule, mais je faisais pas des voyages, je faisais pas des...
Mais c'est quoi ce dont vous parlez, c'est des gens autour de vous qui font des voyages, c'est-à-dire qui ont des revenus très nettement supérieurs, quoi, en fait, c'est ça?
A priori, oui. après, je sais pas, ils ont peut-être pas déclaré, ils débrouillent d'une façon ou d'une autre.
Parce que, madame, on va quand même pas empêcher les gens en HLM de voyager non plus, faut pas exagérer quand même.
Non, mais madame, par les temps qui courent avec les salaires que.
Non, mais moi, je peux vous assurer que je connais bien le monde des HLM.
Moi,
vous
m'expliquez comment
vous pouvez faire de tels voyages. C'est les personnes les plus importantes qui ont des pouvoirs un peu partout, dans des mairies, des départements, à la région. Eh ben, eux, ils ont des HLM. Et vous inquiétez pas, ils voyagent, ils vont au Québec, ils vont au Canada. Et moi, la petite Elina, je peux vous assurer, à part aller à Aubervilliers ou à ce grand Bedotte, je vais pas très loin. Non, mais c'est vrai,
Nadine.
Ce que je dis.
C'est exotique aussi, Aubervilliers.
Non, mais excusez-moi, je comprends pas trop le discours de cette dame, parce que quand on a H&M, c'est vraiment qu'on est dans le besoin.
Oui,
et donc, avec l'inflation actuelle, les salaires et tout ça, je me permets de ne pas trouver ça tout à fait logique.
Nadine, voilà. Elina, on peut quand même entendre ce chiffre qui est assez accablant, 1,8 million de ménages qui candidatent légitimement pour avoir un logement social, pour y rentrer. 1,8 million, tu dis quoi à ces gens? Ben non, parce que tu comprends, ils ont vécu toute leur vie ici, ils veulent pas bouger, donc vous allez attendre qu'ils crèvent pour que vous puissiez un moment. Non mais ça va, un moment, tu t'es dans un logement, t'en as plus besoin, tu le laisses au suivant. Enfin, c'est vraiment de l'égoïsme. Mais profond, quoi.
Et moi qui me choque. J'ai envie de revenir à ma proposition initiale dans le débat qui avait fait hurler tout le monde. Mais
non.
A-t-on besoin seulement de HLM? A-t-on besoin que ce soit géré par le public? Est-ce qu'on ne peut pas aider les gens selon leur situation et soutenir la production de logements privés?
Voilà. Il faut lancer une grande production de logements. Aujourd'hui, on est très en retard en ce qui concerne la construction de logements.
Et aujourd'hui, les HLM sont créateurs d'inégalités. Il y a ceux qui sont dedans et il y a ceux qui n'arrivent pas à y accéder.
Merci à tous. Merci à Nadine, merci à Dominique d'avoir conclu notre discussion. On a posé la question sur les réseaux sociaux. On va regarder quel est le résultat. Est-ce qu'il faut en terminer avec les HLM à vie?
Oui,
80%. Allez, c'est tous ceux qui ont terminé posé un dossier. Là aussi, c'est réglé, c'est sans mesure. Il n'y a pas de doute possible. Le débat va continuer sur RMC, RMC Story. C'est Estelle Midi, c'est avec l'ami Rémi Barré. Bonjour mon cher Rémi.
Salut Alain, salut les grandes gueules. Dans un instant, dans Estelle Midi, on va parler de cette série noire survenue cette semaine sur nos routes, avec des accidents parfois mortels impliquant notamment des enfants et des automobilistes impliqués dans ces accidents qui étaient parfois en défaut de permis, parfois sous stupéfiants, parfois les deux. Et on vous pose la question, y a-t-il trop de laxisme sur la route? Face à des prisons saturées, faut-il libérer les détenus qui sont en fin de peine? Les libérer de manière anticipée, c'est ce que réclament les représentants des avocats d'Île-de-France. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Et puis, menu anti-inflation à 5 euros, il se multiplie en ce moment chez McDo, chez Quick, chez Burger King. Est-ce une prime à la malbouffe?
Oui. Allez, venez débattre avec Rémi jusqu'à 15h. Bonne journée, bon week-end.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.